Les mots dits
sont sans importance.
Sans importance.
Sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose un premier extrait du roman de Doris Lessing, Les grands-mères. Je vous raconte l'histoire. Sur la terrasse d'un café dominant la baie de Baxter Street, deux familles, qui semblent n'en former qu'une, se prélassent au soleil. Rose et Liz, les grands-mères, toutes deux d'une grande beauté, sont entourées de Tom et Yann, leur fils, et de leur petite fille. La perfection offerte à l'admiration de tous. Jusqu'à ce que Marie, la femme de Tom, surgisse, ivre de colère, jetant une ombre sur ce tableau idyllique. Un sentier montait en serpentant au milieu des arbustes pour s'arrêter au jardin du Baxters. Un après-midi, 6 personnes se lancèrent dans cette douce ascension. 4 adultes et 2 petites filles dont les cris de joie faisaient écho au tapage des goélands. En tête marchaient 2 hommes séduisants, plus tout à fait de la première jeunesse, mais que seules de mauvaises langues pouvaient dire d'âge mûr. L'un d'eux boitait. 2 dames d'une 60aine d'années les suivaient, assez belles pour que personne n'eût songé à les juger vieilles. À une table visiblement bien connue d'eux, ils déposèrent sacs, paréos et joujoux. C'étaient des êtres soignés et resplendissants, comme tous ceux qui savent profiter du soleil. Ils s'installèrent, les jambes brunes et soyeuses des femmes négligemment terminées par des sandales, leurs mains que l'on devinait actives, pour un temps au repos. Les femmes occupaient un côté de la table, les hommes l'autre, avec les fillettes qui ne tenaient pas en place. 6 têtes blondes ? Ils étaient sûrement parents. Ce devaient être les mères des hommes, les petites filles qui réclamaient à grands cris la plage, laquelle se trouvait en bas d'un sentier rocailleux, reçurent l'ordre de leur grand-mère, puis de leur père, de bien se tenir et de jouer gentiment. Elles s'accroupirent et se mirent à tracer des dessins dans la poussière avec leurs doigts et de petits bâtons. De bien jolies petites filles. Comment pourrait-il en être autrement avec des géniteurs aussi gâtés par la nature? D'une fenêtre du Baxters, une jeune fille les interpella. « Comme d'habitude, je vous sers la même chose que d'habitude ?» Une des femmes agita la main dans sa direction, ce qui voulait dire oui. Aussitôt apparut un plateau où des jus de fruits frais et des sandwichs complets montraient que l'on avait affaire à des personnes soucieuses de leur santé. Son examen de fin d'études secondaires en poche, Teresa était venue passer 1 an hors d'Angleterre avant d'entrer à l'université. Elle leur avait livré ce renseignement des mois plus tôt et en retour, elle était tenue au courant des progrès des fillettes en primaire. À ce moment, elle demandait comment cela se passait à l'école. L'une après l'autre, les enfants firent entendre leur petite voix pour dire que leur école était cool. La jolie serveuse regagna en courant son poste d'observation à l'intérieur du Baxter, adressant au passage un sourire aux 2 hommes, ce qui fit sourire les 2 femmes, d'abord l'une à l'autre, puis à leur fils. L'un d'eux, Tom, remarqua : « Elle n'arrivera jamais à rentrer en Angleterre, tous les garçons cherchent à la retenir. » « Quelle bêtise elle fera si elle se marie et abandonne ses études !» s'écria une des femmes, Rose, de son vrai nom Roséanne, la mère de Tom. Mais l'autre femme, Liliane, dite Lil, la mère Diane, protesta. « Oh, je ne sais pas !» Elle souriait à Tom. À cette concession, ou à ce compliment, somme toute à leur droit à l'existence, les hommes hochèrent la tête d'un air humoristique, les lèvres pincées, comme après un échange souvent entendu. « Bon, reprit Rose, ça m'est égal, mais 19 ans, c'est quand même trop jeune. » Qui sait comment cela pourrait se terminer ? Lança Lille en rougissant. Se sentant le visage en feu, elle eut une petite grimace qui lui donna un air malveillant ou provocateur. Cela lui ressemblait si peu que les autres échangèrent des regards quelque peu indéchiffrables. Tous soupirèrent et, s'entendant les uns les autres, éclatèrent soudain d'un rire franc, nourri, qui semblait un aveu de non-dit. Une des fillettes s'exclama « Pourquoi riez-vous ? » Et la deuxième, Alice, copiant la petite expression malveillante de sa grand-mère, qui en fait n'avait rien eu d'intentionnel, « Qu'y a-t-il de si drôle ? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. » Mal à l'aise, Lille piqua un nouveau phare. Shirley s'obstina, monopolisant l'attention. « C'est une blague, papa ?» À cette question, les deux pères se jetèrent dans une bagarre improvisée avec leur fille, qui protestèrent en se baissant instinctivement, puis vinrent en redemander, avant de trouver refuge sur les genoux de leur grand-mère. Elles y restèrent à bâiller, le pouce à la bouche, les yeux mi-clos. C'était un après-midi suffocant. Une image de la somnolence repue. Aux tables voisines, sous les grands arbres, lézardaient des gens aussi heureux qu'eux. Les flots environnants, à peine quelques mètres plus bas, bruissaient et clapotaient. Les voix, elles, étaient basses et indolentes. Du Baxter's avec son plateau de boissons fraîches momentanément en suspens, Teresa contemplait la famille. Des larmes glissèrent sur ses joues. Elle avait été amoureuse de Tom, et puis Diane, puis de nouveau de Tom, pour leur beauté, leur aisance et quelque chose de plus, un air comblé, comme s'ils avaient baigné toute leur vie dans un plaisir qui s'exprimait à présent sous forme d'ondes invisibles de contentement. Il y avait aussi la manière dont ils s'y prenaient avec les petites filles, leur assurance et leur savoir-faire. Et les grands-mères, toujours disponibles, transformant le quatuor en sextuor. Mais où donc étaient les mères ? Les enfants avaient toujours une mère. Ces deux petites filles avaient Anna et Marie, toutes deux étonnamment différentes de la famille blonde avec qui elles s'étaient alliées, puisqu'elles étaient petites et brunes. Malgré leur charme, Teresa savait qu'aucune des deux n'était assez bien pour ces hommes. Elles travaillaient, elles avaient monté une société. C'est pourquoi les grands-mères étaient si souvent là. Elles-mêmes ne travaillaient donc pas ? Si, mais elles se réservaient la liberté de dire « Allons au Baxter » et de monter la voir au Baxter. Leurs belles-filles aussi, parfois. Et ils étaient alors 8. Teresa était amoureuse de tous. Elle avait enfin compris. Les hommes ? Oui, son cœur languissait pour eux, mais pas trop sérieusement. Ce qui emplissait ses yeux de larmes, c'était de les voir tous là, de les regarder, comme en ce moment. Derrière elle, à une table proche du bar, se tenait Derek, un jeune agriculteur qui voulait l'épouser. Elle n'avait rien contre lui. Il lui plaisait même assez, mais elle savait que sa vraie passion, c'était eux, la famille. Au-dessus de l'épaisseur des ombrages percés de jour, le soleil enserrait l'arbre. Le bleu torride du ciel, mêlé de bonheur, de félicité, semblait prêt à exuder de grosses gouttes d'une sorte de rosée d'or qu'elle seule était capable de voir. À cet instant précis, elle décida d'épouser son agriculteur et de rester ici, sur ce continent. Elle ne pouvait pas quitter cet endroit pour les charmes capricieux de l'Angleterre et le Bradford, même si les Landes supportaient assez bien la comparaison quand le soleil se décidait à briller. Non, elle resterait ici, il le fallait. « je le veux », se répéta-t-elle, laissant enfin ses larmes couler librement. Elle rêvait à cette décontraction physique, à ce calme qui s'exprimait en mouvements nonchalants, à ses longs bras et ses longues jambes hâlées et au reflet des têtes d'un blond doré au soleil. Juste au moment où elle traçait ainsi son avenir, elle vit une des belles filles gravir le sentier. Marie, oui, c'était elle. Un petit bout de brune remuante qui n'avait rien de l'assurance et du style de la famille. Elle montait lentement. Elle s'arrêtait, le regard fixe, se remettait en marche, s'arrêtait encore, avec une absence de hâte qui était calculée. « Eh bien, je me demande ce qui la mine ainsi, » songea-t-elle, abandonnant enfin sa fenêtre pour porter son plateau à des clients sûrement déjà impatients. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant, je veux encore écouter ce mot que j'adore, votre voix au son caressant, qui le murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots tout attaché. @gmail.com. À bientôt.
Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.